Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque année à cette époque, c'est un peu Noël avant l'heure pour les enfants et pour les grands, puisqu'à Montreuil, près de Paris, se tient actuellement le Salon du Livre de la Jeunesse, une vraie caverne d'Ali Baba. Depuis mercredi, évidemment, jusqu'à lundi prochain, cette 34e édition réunit donc des centaines d'auteurs, d'illustrateurs et d'éditeurs de ce secteur qui est l'un des plus dynamiques en littérature. À cette occasion, nous sommes donc en compagnie aujourd'hui de deux fines plumes, Nicolas de Crécy, dessinateur magnifique, scénariste dont l'œuvre est composée d'une trentaine de titres parfois déclinés en plusieurs volumes, et romancier désormais avec la publication de ce livre intitulé « Les amours d'un fantôme en temps de guerre » chez Albin Michel, récompensé récemment par le prix Vendredi. Bonjour Nicolas de Crécy.
Bonjour.
À vos côtés, Nicolas Michel, écrivain confirmé, lauréat du prix Goncourt du premier roman en 1999, auteur de plusieurs fictions, d'un carnet de voyage, d'un album illustré, et vous venez de publier Le Chant Noir des Baleines aux éditions Talent Haut dans la collection Héroïque qui s'adresse d'abord aux adolescents. Bonjour Nicolas Michel.
Bonjour.
Pour commencer, dans la mesure où l'un et l'autre avaient travaillé aussi pour le public adulte, je me demandais pourquoi... Parfois, écrivez-vous pour la jeunesse? Est-ce que c'est un défi? Et qu'est-ce qui vous intéresse dans cette nouvelle écriture? Nicolas de Crécy?
En fait, en premier lieu, ce livre, je ne l'avais pas spécifiquement pensé pour un public particulier. Je n'avais pas pensé à un livre jeunesse. Je m'étais dit que j'allais écrire un livre comme Miyazaki fait ses films. C'est-à-dire, ça peut être pour la jeunesse, mais aussi pour un public divers, qui peut être adulte. Donc, je voulais faire quelque chose d'un peu universel comme ça. Donc, accessible, mais en même temps lisible par tous.
Et vous, Nicolas Michel ?
Ma réponse va rejoindre un peu celle de Nicolas de Crécy. C'est-à-dire que, en fait, quand j'ai une histoire, je suis un peu incapable de me dire « je vais écrire pour tel âge, telle personne tel... ». Je ne calcule pas comme ça, je me lance et puis ça sort un petit peu naturellement. Mais après, il y a une intention aussi, c'est, je ne me dis pas « je vais écrire pour la jeunesse », mais je vais me dire « je vais essayer de créer quelque chose qui ait plusieurs niveaux de lecture ». Donc, même quand l'écriture elle-même est assez simple, ou pas, on essaie de pas trop la rendre complexe et pas trop forcément travailler, on peut faire passer plusieurs niveaux de lecture qui s'adressent à des adultes, à des adolescents, à des adultes qui sont restés un peu adolescents ou à des adolescents qui sont en train de devenir adultes.
Est-ce qu'il y a quelque chose de différent néanmoins dans l'écriture, Nicolas de Crécy ?
Oui, en fait, c'est vraiment une certaine simplicité, le fait de penser à rester accessible, c'est-à-dire de pas aller trop loin dans un travail d'écriture trop radical ou trop, d'être juste facilement compréhensible.
Il y a même peut-être un petit travail d'effacement par rapport au style. C'est-à-dire que pour être vraiment dans l'histoire, il faut pas forcément se montrer en tant qu'auteur, montrer qu'on est capable de faire des belles phrases longues avec des mots compliqués, mais au contraire, laisser la place au personnage, d'exister vraiment, à l'histoire d'exister avant le style. En tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille.
Oui, tout à fait. C'est une bonne expérience de sobriété par rapport à l'écriture que moi, j'ai trouvé intéressante. Et puis moi aussi, il y a le fait qu'il y a des illustrations qui sont très travaillées. Donc tout ce travail-là et ce style, je l'ai mis dans l'illustration. Et le travail un peu baroque, je l'ai mis dans l'illustration. En revanche, l'écriture, je l'ai laissé sobre.
Le thème du salon cette année est « Nos futurs », c'est-à-dire le futur qui nous attend, mais qu'on peut aussi entendre comme « nos futurs », à savoir qu'il n'y a pas de futur, il n'y a pas d'avenir, en tout cas très joyeux avenir. Et vous, en revanche, vos deux récits s'inscrivent dans le passé, même si on le verra, évidemment, ils ont un écho avec le présent très frappant. Mais par exemple, ce n'est pas la première fois pour vous, Nicolas Michel. Un de vos textes précédents, déjà pour la jeunesse, se déroulait pendant l'occupation. Et là, vous revenez sur un événement tragique de 1920, le naufrage réel d'un bateau au large des côtes atlantiques françaises, dans lequel sont mortes 568 victimes qui partaient en Afrique. D'ailleurs, c'était le nom du paquebot. Pourquoi ce fait historique a-t-il retenu votre attention ?
Pour deux raisons principales. La première, c'est qu'il est absolument pas connu, enfin en tout cas méconnu. Donc il y a une association bordelaise qui se bat pour faire connaître ce drame qui a coûté la vie à plus de 500 personnes, dont on ne sait presque rien. Et parmi ces 500 personnes, il y avait quand même 200 tirailleurs sénégalais qui revenaient de la Grande Guerre et qui étaient renvoyés chez eux. Et la deuxième raison, c'est parce que je trouvais aussi que ce thème du naufrage faisait évidemment écho à une actualité. Alors ça se passe dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est plutôt des gens qui essaient de venir en Europe qui meurent noyés. Et donc je pensais qu'il y avait vraiment un lien à tirer entre ce passé, notre présent, et ce qui conditionne évidemment notre avenir.
Mais est-ce que pour vous, c'est important aussi de rappeler à ce jeune public des faits historiques qui, donc, en l'occurrence ici, ont été oubliés par les adultes d'ailleurs, mais pour qu'il y ait une connaissance qui passe par la littérature?
C'est pas important, c'est essentiel, c'est fondamental. Ces tirailleurs sénégalais qu'on a fait venir en France pour se battre pour une guerre à laquelle ils ne connaissaient rien et où ils n'étaient absolument pour rien, on les a renvoyés chez eux. Il y en a, là, en l'occurrence, il y en a 200 qui sont morts noyés et on les a, outre le fait qu'ils se sont noyés, on les a complètement oubliés après. Donc personne ne connaît les noms de ces héros. Et dans les livres d'histoire, on apprend ces sujets, on donne un certain nombre d'indications, mais la fiction permet autre chose, permet d'aller plus loin dans le ressenti, dans l'émotion. Je pense que ça parle plus, peut-être, que des faits bruts enseignés à l'école qui ne rentrent pas forcément dans le détail.
Et vous, Nicolas de Crécy, votre récit s'inscrit aussi dans l'histoire, nous allons y revenir. Mais vous revenez déjà sur un thème que vous aviez déjà exploré, à savoir la figure du fantôme. Je voulais savoir ce qui vous fascinait tant chez les fantômes.
En fait, c'est assez pratique parce que ça évite de mettre en scène des figures humaines. Donc c'est beaucoup plus simple, enfin c'est comme la tradition anthropomorphique qui démarre avec Benjamin Rabier, puis on a Walt Disney ou Calvo, où on montre des animaux qui figurent la condition humaine. Et en fait là, le fantôme pour moi c'est pareil, c'est-à-dire que je me sers du fantôme pour parler de l'humain, et en même temps c'est pratique puisque les fantômes ont été des humains, enfin c'est dans le sens classique qu'on peut l'entendre. Et en plus graphiquement c'est très intéressant, parce que c'est juste un drap blanc, il a pas c'est un exercice graphique intéressant de montrer les sentiments d'un personnage sans qu'il ait de visage. Il a pas d'œil, il a pas de bouche, donc c'est un exercice assez particulier ça m'intéressait. Et aussi graphiquement, c'est très pratique parce que ça permet de mettre de la lumière dans une image. C'est-à-dire qu'on a juste un petit drap blanc comme ça sur lequel vient s'accrocher la lumière et derrière le décor qui est très travaillé. J'aime bien le résultat plastique de l'image en fait.
Mais vous y croyez au fantôme, Nicolas Crécy?
Ah non, absolument pas, non. Moi, je suis complètement...
Vous êtes très cartésien,
j'ai pas tellement de...
Donc vous n'y croyez pas, mais c'est pas juste par facilité de dessin. Il y a aussi quelque chose qui vous intéresse, parce que c'est aussi des figures qui traversent le temps, par exemple. Et là...
Oui, tout à fait. Donc c'était un personnage parfaitement intéressant pour développer cette histoire, et qui m'était très utile. Et en fait, moi, les histoires naissent effectivement de... Cette histoire est née d'un dessin. C'est un petit dessin que j'avais fait sur un coin de table. Et j'aimais bien le personnage. Je trouvais... J'avais juste figuré comme ça sur un plancher. Et je trouvais ça assez beau graphiquement. Et je me suis dit, il y a quelque chose à en tirer. Enfin, il y a quelque chose à inventer par rapport à ce personnage. Ça a duré 2-3 ans. Et ensuite, je l'ai mis en scène. Enfin, j'ai commencé. Et j'ai voulu le faire sous la forme écrite pour changer un peu de la bande dessinée.
Oui, parce qu'ici, il s'agit vraiment de votre premier roman, même si vous êtes l'auteur de nombreux scénarii.
Oui, ce qui est un travail très très différent. En fait, pour moi, tout livre est une expérience nouvelle, un laboratoire. Et ça, c'était une expérience nouvelle. Enfin, j'ai toujours écrit en parallèle de mes bandes dessinées, juste pour le plaisir, et ça faisait longtemps que je voulais vraiment aboutir un travail à ce niveau-là. Donc, il m'a semblé que c'était l'occasion, ce personnage se prêtait bien à ce système d'écriture qui est pour moi beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace que la bande dessinée, parce que c'est un travail très contraignant et très long. La bande dessinée, il faut un temps long pour mettre en scène ce qu'on veut dire, alors que là l'écriture est très directe. Et donc c'est vraiment, pour moi, c'était un exercice passionnant en plus.
Alors saisir l'invisible, dire peut-être l'indicible, travailler sur les fantômes, c'est un peu ce qui vous réunit, parce que vous aussi, d'une certaine façon, Nicolas Michel, vous travaillez sur ces fantômes, sur ces hommes et quelques femmes d'ailleurs sur le bateau. Il y avait aussi des familles, toutes ces personnes qui ont été oubliées par cette grande histoire. Et c'est là que l'écrivain arrive, parce que d'un seul coup, il faut donner vie et incarner, même si c'est un fantôme, incarner des réalités. C'est un vrai défi. Comment est-ce que vous avez fait, vous, par exemple, Nicolas Michel, vous vous êtes, s'il n'y a pas vraiment de documentation, si ça a été oublié, comment est-ce que vous travaillez?
Alors, il y a quand même une part de documentation, puisque le drame de l'Afrique, donc, est assez peu connu, mais il y a, un historien qui s'appelle Roland Mornay, qui a travaillé dessus et qui a fait un texte qui étudie l'ensemble du drame. Et puis après, bah, pour incarner, c'est comme pour tout roman, j'ai essayé de faire naître des personnages qui soient crédibles, et puis qui vivent et puis qui soient pleins de contradictions. En l'occurrence, je pense mes lectures d'enfants, donc toutes les histoires de naufragés, donc Vendredi et la vie sauvage, Robinson Crusoe, etc., qui m'ont donné la clé, en inversant un peu les choses et en faisant se rencontrer donc un tirailleur sénégalais survivant au naufrage, donc plutôt une vingtaine, 20-25 ans, et un jeune garçon qui, lui, a perdu son père pendant la guerre et qui le recueille avec sa mère sur une plage de l'île de Ré. Et donc c'est cette rencontre, et c'est vraiment ça qui m'intéressait aussi, c'est la rencontre entre deux cultures et deux histoires différentes.
Et donc vos deux personnages sont orphelins. Est-ce que c'est un passage obligé dans la littérature jeunesse, d'avoir d'abord des narrateurs qui ont à peu près l'âge, même si on reviendra avec vous, Nicolas de Crécy, c'est un âge tout à fait relatif, mais on va dire qu'ils ont à peu près l'âge des lecteurs et des lectrices, et qu'ils soient en situation de rupture familiale, c'est-à-dire qu'ils ont perdu leurs parents. Nicolas de Crécy, pour vous, c'était une étape ou pas ?
C'est toujours intéressant effectivement de faire disparaître un petit peu la cellule familiale pour partir dans des aventures, voilà, pour que le personnage jeune puisse s'exprimer et puisse vivre sa propre vie. Donc oui, c'est bien de mettre un peu les parents de côté quand le scénario le permet, pourquoi pas. C'est un bon départ.
Mais je reviens sur cette figure de l'orphelin, parce que c'est vrai que c'est quand même un classique. Évidemment, il y a toute la saga Les Orphelins Baudelaire, qui est un grand succès de la littérature jeunesse. Et puis il y a Harry Potter, en premier lieu, qu'on connaît tous. Je crois que c'est la 20e année, d'ailleurs, de la naissance du premier volume d'Harry Potter, ce jeune garçon qui est envoyé à l'école des sorciers et dont les parents ont été assassinés. Qu'est-ce que vous lisiez, vous, quand vous étiez enfant, quand vous y avez, ou adolescent? Et est-ce que pour autant vous lisiez d'ailleurs de la littérature jeunesse, Nicolas de Crécy?
Pas spécialement. Moi, je me souviens que les choses que j'ai regardées le plus quand j'étais assez jeune, hein, 5-6 ans, c'était Sampé. Mais c'était pas le Sampé du petit Nicolas, parce que ça m'intéressait pas, ça parlait de l'école, et l'école, c'était ma réalité, et je voulais pas en entendre parler. Donc je lisais plutôt Rien n'est simple, qui était un ouvrage qui était plutôt réservé aux adultes. Et j'adorais, alors je comprenais pas exactement ce qui s'y passait, parce que c'est donc des grandes images avec des petites légendes.
Ah oui, c'est la caractéristique de Sampé, voilà. Le grand et le minuscule en même temps.
Exactement, et vraiment ça me fascinait complètement, c'est ce qui a formé tout, ça m'a formé au niveau narratif et au niveau graphique. Vraiment c'est quelque chose qui est resté très très fort. Et je me dirigeais plutôt vers ça pour décrypter un peu toute la complexité de ces dessins. Et je regardais la légende à côté en me disant, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que ça me concernait pas, je pouvais pas comprendre. En plus, c'est très fin, c'est des choses qui sont très fines. Le travail de Sampé, il est... Et donc, voilà, moi, j'étais plutôt attiré par ça. Et le petit Nicolas, en fait, je l'ai jamais lu, enfin, je n'arrivais pas à le lire.
Et juste une parenthèse, vous ne vous appelez pas l'un et l'autre Nicolas parce que vous êtes de la génération du petit Nicolas?
Je suppose que non. Je demanderai à mes parents.
Il y a peut-être quelque chose, mais il faudrait que je me renseigne aussi.
Là aussi, c'est un grand classique. Et vous, Nicolas Michel, qu'est-ce que vous lisiez adolescent?
À l'époque, c'était peut-être moins caractérisé littérature jeunesse.
C'est vrai.
Alors, on avait des auteurs qui étaient considérés comme pouvant être lus jeunes, etc. Moi, je lisais à peu près tout ce qui passait. Donc, comme je vous ai dit, les Jules Verne, les 2 ans de vacances, j'ai dû le lire 4 fois. Les aventures d'Arsène Lupin, je dévorais ça. Et puis, plus jeune, c'était même les Clubs des 5, etc. Donc, à peu près tout ce qui passait.
Du moment que c'était bien écrit.
Du moment que ça en racontait une histoire, quoi. C'était vraiment cette évasion que ça procurait. Et effectivement, dans le cadre de l'évasion, Sa Majesté des Mouches, ou 2 ans de vacances, ou Robinson Crusoe, bah, effectivement, là, on est. Non seulement il n'y a plus la structure familiale, mais il n'y a plus non plus la société. Donc on est dans le. L'évasion complète, et c'est que maintenant, bien des années après, où je vois aussi les significations que ça avait pour les auteurs. À l'époque, c'était juste les aventures qui m'intéressaient.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur Radio France Internationale avec une émission spéciale aujourd'hui consacrée à la littérature pour la jeunesse à l'occasion du Salon du Livre de Montreuil qui se tient actuellement près de Paris. Et nous sommes en compagnie de deux auteurs invités de la manifestation. Nicolas de Crécy pour son roman illustré « Les amours d'un fantôme en temps de guerre » paru chez Albin Michel. Et Nicolas Michel pour Le Chant Noir des Baleines aux éditions Talents Hauts. Deux très beaux récits, on l'a entendu, qui s'inscrivent dans la grande histoire, les deux guerres mondiales en l'occurrence, et qui mettent en scène des jeunes narrateurs qui vont découvrir l'un et l'autre les violences de ces conflits. Avec d'un côté, donc avec vous Nicolas de Crécy, ce jeune fantôme, enfin tout est relatif puisqu'il a 89 ans. Et qu'il nous raconte comment il s'est retrouvé orphelin et comment il va être projeté dans une existence, une histoire très agitée. Et je me demandais, dans la mesure où on ne sait rien sur le fonctionnement des fantômes, comment ils naissent, comment ils vivent, comment ils communiquent entre eux, quelle a été votre source d'inspiration ? Parce que là, il y a tout à inventer, du coup.
Oui, c'est justement ce qui est intéressant avec les fantômes. Et c'est vrai que je me suis interdit de lire tout ce qui concernait les fantômes, études ou autres, ou fiction, pour garder toute mon imagination disponible pour me créer mon propre univers par rapport à ces fantômes.
Parce qu'il y a plein d'énigmes qui concernent les fantômes. Comment naissent-ils, par exemple ? Alors vous avez une hypothèse.
Ah oui, j'ai une hypothèse. En fait, ce petit fantôme, en fait, croyait qu'il était comme un enfant. C'est-à-dire qu'il avait des parents, qu'il avait conçus. Enfin voilà, en fait... Malheureusement, il va s'apercevoir que non, il est simplement l'émanation d'un défunt. Donc ça lui file un coup quand même quand il apprend ça. Et il s'aperçoit que c'est pas ce qu'il pensait vraiment sur son origine. Après, je m'amuse beaucoup avec toutes ces thématiques. C'est vraiment de l'ordre du jeu par rapport à cette vie des fantômes. Justement, quand je les installe à travers l'histoire de l'art, par le fait qu'ils sont, des portraits d'eux sont faits dans les peintures classiques. Je trouvais ça amusant et ça me permettait aussi de mettre en scène un personnage qui est ce personnage d'un fantôme historien de l'art qui hante un musée et qui se trouve, on s'aperçoit ensuite que c'est un traître et que, en fait, il est directement en association avec les personnages que j'ai mis en scène qui sont les fantomacides et qui sont donc l'équivalent des nazis dans la vie réelle.
Oui, alors on va s'arrêter peut-être une seconde sur ce passage parce que c'est très intéressant. Vous imaginez, en tout cas vous avez cette intuition passionnante que les fantômes, donc il y a deux mondes parallèles, le monde des humains et le monde des fantômes, très bien, et que les fantômes vivraient les mêmes tragédies que les humains, mais en amont. Et donc ici, il y a bien une guerre, en effet, dans laquelle ont disparu d'ailleurs les parents du petit fantôme. Une guerre qui ressemble en tout point à la Seconde Guerre mondiale, qui n'est pas encore arrivée, puisque nous sommes en 1933. Avec ses grands thèmes, le fascisme, et donc des fantômes acides qui sont terribles, la collaboration, la résistance, les camps de la mort. On croise aussi un personnage qui ressemble à Anne Frank, puisqu'elle est dans un grenier et qu'elle écrit un journal. Qu'est-ce que vous permet cette approche fictive et décalée de l'histoire, Nicolas de Crécy ?
En fait, ça s'est imposé à moi au cours de l'écriture. Au début, mon intention, c'était juste de raconter l'histoire d'un petit fantôme et sa quête amoureuse. Et ça devait s'arrêter là. Mais en fait, j'ai écrit ce livre en 2015, à peu près. C'était les primaires... aux États-Unis, avec Trump, on sentait que Trump commençait à. Qui serait possiblement au pouvoir. C'était quelque chose qu'il fallait envisager. Il y avait le Brexit, il y avait plein de choses que je trouvais un peu inquiétantes et qui, malheureusement, se sont cristallisées et deviennent de plus en plus évidentes. Pour moi, cette Seconde Guerre mondiale ne devait pas faire partie du livre. Et j'ai réfléchi à la manière d'installer au mieux cette période et de dire. On vit, nous qui sommes nés dans des démocraties, qui se révèlent être quand même relativement fragiles. Donc je trouvais intéressant de revenir en arrière par le biais des fantômes pour dire « Attention, il faut voir comment naissent des régimes qui peuvent être dangereux. » C'était vraiment, il y avait quelque chose qui me... Enfin, je voulais faire passer cette inquiétude par ce livre quand même.
Cette passerelle donc entre ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous allons peut-être vivre demain, avec ce qui s'est déjà passé.
Voilà, il faut rester vigilant. C'est simplement pour dire, s'il y a des jeunes lecteurs, de leur dire « Voilà, restons vigilants parce que vous... » Vous n'avez pas de témoignage direct de cette guerre. Moi, j'en ai eu par mes grands-parents et mes parents, mais les générations qui viennent n'auront pas un témoignage direct comme ça, parce que bientôt, ces gens-là qui ont vécu ça seront des fantômes, en fait. Et pour moi, c'était aussi intéressant de le faire passer par un personnage de fantôme.
Alors, c'est un peu une démarche similaire que vous avez, Nicolas Michel, parce que Vous mettez en scène donc ce jeune garçon, Léon, qui ne sait rien. Il ne sait rien, d'autant plus qu'il vit un peu en marge de la société. Donc nous sommes en 1920 sur l'île de Ré, tout au bout de l'île, sur cette commune Saint-Clément-les-Baleines, nommée ainsi parce qu'en effet, à une époque, des baleines venaient s'y échouer. Et là, en juin, un matin, il trouve d'abord des affaires personnelles, la petite valise d'une enfant sans doute, et puis il trouve le corps de ce jeune homme, Tierno, qui est à moitié noyé, mais qui, Dieu merci, sera sauvé par la maman de Léon et lui-même. Et c'est vrai que Léon, il ne sait rien de cette grande guerre où a disparu aussi son père. Et c'est Tierno, finalement, le tirailleur sénégalais, une fois qu'il aura repris ses forces, qui va lui raconter. Donc vous adressez aussi un public pour raconter ce qui s'est passé, mais aussi peut-être pour l'alerter, puisqu'on verra aussi après avec vous plus en détail l'écho de la situation des migrants aujourd'hui.
Mais il y a effectivement une dimension d'engagement qui n'est pas forcément la plus importante au départ, mais qui vise à faire passer ce message qu'il y a quelque chose à retenir du passé et à apprendre pour pouvoir continuer. En l'occurrence, l'enfant, il est maintenu dans l'ignorance par sa mère, qui est un personnage quand même un petit peu ambivalent, c'est-à-dire qu'elle a vécu dans sa chair la disparition de son mari, et du coup, elle est dans le rejet de la société. C'est-à-dire qu'elle maintient son enfant, elle ne veut pas qu'il aille à l'école, elle le maintient en marge du village, dans des objectifs d'autosuffisance. Et donc ce tirailleur échoué, finalement, c'est lui qui va arriver à faire comprendre, à réouvrir le monde qui s'est fermé, alors que c'est lui qui finalement a le plus souffert. Et il a vécu donc le déracinement parce qu'on l'a emporté, enfin on l'a emmené depuis l'Afrique. Il a vécu la guerre. Et une guerre qui dure au-delà de 1918, puisque la démobilisation est très longue, et puis lui, il est envoyé sur le front à Salonique, etc. Donc ça dure au-delà de 1918. Et puis, il a failli mourir dans des circonstances du naufrage, et ça va même au-delà, mais je ne vais pas révéler, non, parce que c'est encore pire que ça. Et c'est lui qui, finalement, par son ouverture d'esprit, par la manière dont il échange avec cet enfant, apporte des solutions à comment vivre en société, comment essayer de faire un petit peu évoluer les choses.
Vous êtes allé sur l'île de Ré, à Saint-Clément-des-Baleines ?
J'y suis allé.
Pourquoi ?
Très sincèrement, pour vérifier que j'avais pas écrit de choses qui n'étaient pas réelles ou trop éloignées de ce que je racontais.
Alors la nature, elle est importante aussi chez vous, Nicolas de Crécy, parce que, donc, je le rappelle, Les amours d'un fantôme en temps de guerre, c'est à la fois un roman, mais c'est surtout une centaine, je ne les ai pas comptées, mais une centaine, alors vous dites illustration, moi je dis toile, parce que je trouve que chaque page en regard du texte est absolument magnifique, extraordinaire, donc des illustrations qui racontent une autre histoire, ou en tout cas ce qui peut se passer entre les lignes. Comment ça se passe ? Qui vient en premier, le dessin ou le verbe ?
J'imagine déjà par l'image, ça c'est certain. Enfin, le fait de pratiquer le dessin depuis toujours a tordu mon cerveau dans ce sens-là, en fait, si j'ose dire. Donc le dessin vient en premier, ensuite, en fait, j'imagine l'histoire par l'image, et après j'écris. En fait, c'est une cuisine qui est un peu difficile à décrire, parce que tout est très intuitif, très naturel. Et j'ai simplement veillé à ne pas être redondant, effectivement, il ne fallait pas que ce qui était dit dans le texte se répète dans l'image et inversement.
Nicolas Michel, est-ce que vous auriez la tentation de travailler aussi avec un illustrateur ? Parce que je trouve, par exemple, que cette histoire s'y prête merveilleusement.
Pour rebondir d'abord, j'écris essentiellement, mais je fonctionne aussi avec des images. C'est-à-dire que j'ai souvent d'abord l'image de la scène, donc par exemple la scène d'ouverture où cet enfant découvre un corps de tirailleur, donc africain, allongé. C'est vraiment l'image qui est venue avant le texte. Et après, j'ai décrit l'image que je voyais dans ma tête sur le plan du texte. Après, moi, j'ai déjà travaillé un peu avec des illustrateurs. J'ai moi-même illustré un abécédaire que j'ai fait l'année dernière.
Alors, illustré, vous voulez dire dessiné ?
Dessiné, oui.
Ah, donc vous avez aussi ce talent ? Oh, eh ben si, c'est un talent. C'est un talent, tout le monde n'est pas capable de dessiner.
C'est vrai que c'est quelque chose dans la littérature jeunesse que je trouve fascinant. Et alors, c'est vrai que ça impose des images au lecteur, donc effectivement, l'imagination est peut-être un peu bridée. Mais j'ai ce souvenir dans des textes dont je vous parlais, des Jules Verne, etc., qui à l'époque étaient illustrés. Et j'adorais ces illustrations très, très fines où on pouvait s'évader. En fait, tout est ouvert et je trouve que c'est vraiment génial.
Oui, c'est vrai qu'il y avait cette problématique. Parce que moi, j'aime pas, quand je lis un texte, je n'aime pas avoir en vis-à-vis un dessin qui va me dire ce que je dois imaginer. Mais en même temps, je tenais beaucoup à faire ce livre. C'est un paradoxe, c'est un peu curieux. Parce que j'avais envie d'imposer cet univers visuel que j'avais en tête par rapport à mon écriture. Et en fait, l'idée, c'était de faire rentrer le lecteur par une ambiance. Le dessin est juste l'ambiance. On propose une ambiance. Il y avait différents niveaux de lecture. Donc, la première lecture était de regarder les images et de rentrer dans l'ambiance. Et ensuite, d'avoir une curiosité pour ce qui peut se passer par rapport à ces images et de lire le texte.
Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission et surtout de nous avoir fait partager les coulisses de ces deux livres absolument magnifiques, dont je rappelle les titres. Nicolas Michel, vous signez donc Le Chant Noir des Baleines, qui est paru aux éditions Talent Haut, et vous, Nicolas de Crécy, Les Amours d'un fantôme en temps de guerre, chez Albin Michel. Et encore un mot pour dire, Nicolas de Crécy, que vous avez actuellement une exposition à Paris qui s'appelle Carnet d'été. De quoi s'agit-il exactement ?
Oui, en fait, c'est une double exposition. C'est-à-dire qu'il y a, il y a deux salles dans la galerie, l'une où je montre mes aquarelles de voyage et l'autre où il y a des originaux des Amours d'un fantôme. C'est intéressant aussi de voir les originaux parce que par rapport à l'impression qui est très bien, le livre est très bien imprimé, mais c'est une autre dimension. Le dessin original est une autre dimension. Et il y a quelques croquis avec qui montrent comment naissent les images.
Donc c'est une galerie qui est dans le 9e arrondissement à Paris, qui
rue
s'appelle
Chauron, la galerie Barbier-Maton.
Très bien. Et c'est jusqu'au 5 janvier prochain. Merci beaucoup et bon salon du livre de jeunesse.
Merci.
Merci à vous.
Littérature sans frontières. Le podcast de Littérature sans frontières à réécouter sans limite sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.